France Culture.
Fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump dit souhaiter une fin réelle au conflit entre l'Iran et Israël et pas un simple cessez-le-feu. Quelle importance faut-il accorder aux déclarations du président américain? A-t-il seulement les moyens aujourd'hui d'infléchir le bellicisme infatigable de son allié Netanyahou? En attendant, les affrontements entre les deux pays ne montrent aucun signe d'apaisement sur le terrain, suscitant, on le verra, l'inquiétude croissante de la population civile obligée de fuir. On se rend en Ukraine, après que l'armée du Kremlin a tiré des centaines de drones et des dizaines de missiles, touchant de multiples cibles et en particulier la capitale Kiev. L'actualité en France, c'est notamment la date butoir aujourd'hui pour les conclusions du conclave sur les retraites. On parlera également déchets toxiques et leur impact sur l'environnement. Enfin, avec notre invité, on détaillera un rapport qui doit être publié aujourd'hui par la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Rue déserte, carcasses de voitures, décombres d'immeubles effondrés, sans oublier la fin des illusions. Toute la nuit, les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti en Israël comme en Iran, où quand la guerre de l'ombre entre les deux ennemis a fini par éclater au grand jour jusqu'à frapper directement au seuil de leur porte, aujourd'hui transformée en tombeau. Depuis vendredi dernier, le dernier bilan de ces cinq nuits de désolation fait état déjà de 24 morts côté État hébreu et 224 tués, plus d'un millier de blessés dans la République islamique. Le quotidien des civils a désormais basculé dans l'incertitude et parfois même l'exil, fuir pour vivre. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Des vols transportant des personnes évacuées d'Israël sont arrivés en Slovaquie, en République tchèque. Et puis en Iran, cette fois-ci, Marie-Pierre, des milliers d'habitants paniqués cherchent à présent à quitter à tout prix la capitale Téhéran.
Oui, et c'est une ville, rappelons-le, de 10 millions d'habitants, ce qui génère un chaos certain. De longues files de voitures continuent à se presser aux abords des stations-service, sur plusieurs kilomètres parfois, et les routes de sortie de la capitale sont embouteillées. Nombre d'habitants, vous le disiez, fuient Téhéran, du moins ceux qui le peuvent. Sur les réseaux sociaux, beaucoup postent de dernières photos, disent-ils, de leur maison, en ajoutant espérer les revoir un jour. Salon bien rangé, coussins sagement disposés sur le canapé, rideaux tirés sur l'une d'elles, des valises entassées sur une autre. « J'ai emballé tous mes souvenirs, j'ai arrosé mes fleurs et je suis parti », écrit ainsi un internaute. Des images touchantes qui se superposent à celles violentes d'intérieurs dévastés d'habitations et de quartiers résidentiels éventrés et en ruine. Cinq nuits à trembler alors que s'abattent les bombes. Mais beaucoup ne savent pas où se réfugier pour être en sécurité. En outre, ils ignorent si les routes qu'ils vont emprunter ne tomberont pas à leur tour sous le feu israélien. D'autres ne peuvent tout simplement pas partir, de vieux parents dont il faut s'occuper, que l'on ne peut évacuer. Alors, ils restent dans une ville dont les commerces ferment les uns après les autres, en espérant que les bombes ne les atteindront pas.
Merci Marie-Pierre Véraud. Jusqu'à quel point Benjamin Netanyahou a-t-il besoin d'une guerre permanente aujourd'hui pour ne pas perdre son pouvoir et se retrouver devant la justice, tant à Gaza qu'au Liban et désormais donc en Iran? La témérité du Premier ministre israélien confine désormais à l'hybris, et quand bien même le chef du gouvernement peut se prévaloir de réussites tactiques retentissantes, jamais celle-ci ne se conjugue à une véritable stratégie politique. Et dans ces conditions, difficile d'imaginer donc comment de cette course vers l'abîme pourrait ressortir autre chose qu'un chaos généralisé. Alors hier, depuis le Canada, les dirigeants réunis au sommet du G7 ont, eux, publié une déclaration commune appelant à la désescalade, mais signe des divisions. Après que Donald Trump a décidé de quitter prématurément la réunion, le président américain s'en est pris à son homologue français, Emmanuel Macron, lui reprochant d'avoir présenté de façon erronée que son départ visait à œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux, il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, a lâché le locataire de la Maison Blanche avant d'ajouter. Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. Alors il faut dire que la position du milliardaire républicain reste pour le moins difficile à cerner. Donald Trump entretient assez largement l'ambiguïté sur ses objectifs face à l'embrasement du Moyen-Orient, s'affichant comme un allié inconditionnel d'Israël. Il n'en reste pas moins dépendant d'un électorat qu'il a placé au pouvoir pour qu'il cesse les guerres menées à l'étranger. Ce faisant, Claude Guibal, eh bien, on distingue globalement deux scénarios possibles. Lesquels ?
Plus que de scénarios, il faudrait pouvoir parler d'options. Guerre ou paix, s'engager militairement ou agir en médiateur et négocier la désescalade. Or, la situation est illisible, compliquée par le flou entretenu par Donald Trump qui a modifié son discours ces dernières heures, affirmant tout d'abord garder un canal de discussion avec les Iraniens avant de basculer brutalement dans une escalade verbale, exhortant la population à évacuer immédiatement Téhéran et quittant prématurément pour sa part le G7 au Canada. Au même moment, Washington annonce dérouter un troisième porte-avions en direction direction du Golfe Persique pour rejoindre les deux groupes aéronavals déjà présents sur place. Un déploiement potentiellement offensif, mais il ne s'agit que d'une posture défensive, tempère de son côté le porte-parole de la Maison-Blanche. Donald Trump, qui s'est fait élire sur la promesse de ne pas engager les États-Unis dans des guerres coûteuses et inutiles, se voit acculé par la situation. Lui, qui veut apparaître comme un faiseur de paix, se trouve pourtant le seul à pouvoir fournir aux Israéliens les bombes anti-bunkers qui pourraient permettre de détruire le site nucléaire de Fordo. Or, ce serait un engagement ouvert aux côtés d'Israël. Cela mettrait aussi à mal l'accord récemment passé par les États-Unis avec les Houthis, supplétifs de l'Iran au Yémen, dont les missiles épargnent désormais les navires américains en mer Rouge. Face à ces options, Donald Trump joue une communication chaotique, imprévisible, devant ce Proche-Orient économiquement stratégique qu'il voudrait à tout prix voir pacifié et qui lui résiste.
Alors quand certains, on l'a vu, sont obligés de fuir pour vivre, d'autres sont contraints de braver la mort pour se nourrir. Dans la bande de Gaza, au moins 51 Palestiniens ont encore été tués ce matin par des tirs de chars israéliens à Ran Younes, dans le centre de l'enclave, alors qu'ils attendaient des camions transportant de l'aide humanitaire. 200 autres ont été blessés, dont une vingtaine grièvement. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.
On évoquait tout à l'heure ce sommet du G7, où la guerre en Ukraine est assez largement éclipsée par les hostilités entre Israël et l'Iran. Et pourtant, là-bas non plus, le conflit ne connaît aucun répit.
La nuit dernière, au moins 15 personnes ont été tuées, plus d'une centaine blessées à Kiev, dans l'une des pires attaques de l'envahisseur contre la capitale. Pendant plus de 11 heures, la ville a été la cible de missiles et de drones. Les précisions de Sylvain Poyer.
Les sirènes ont hurlé une bonne partie de la nuit à Kiev. L'attaque a commencé peu après 21h pour ne s'achever qu'à 8h30 ce matin. D'après les autorités ukrainiennes, près de 280 drones kamikazes et une trentaine de missiles ont été lancés, principalement sur la capitale. C'est l'un des assauts les plus violents depuis le début de ce conflit. L'aviation ukrainienne affirme avoir intercepté la majorité des projectiles, mais certains ont frappé des zones habitées. À Solyomanska, par exemple, un quartier résidentiel de l'ouest de Kiev, un immeuble a été éventré. Les secouristes fouillent toujours les décombres où des personnes pourraient encore être coincées. Plus de 100 blessés ont été recensés, parmi lesquels un citoyen américain de 62 ans. Des dégâts ont aussi été signalés dans 7 autres districts de la capitale où des écoles, des logements, une résidence universitaire et même un jardin d'enfants ont été touchés. Selon le maire de la ville, des bombes à sous-munitions interdites par la convention d'Oslo ont été retrouvées sur l'un des sites touchés et le président Volodymyr Zelensky a lui dénoncé un acte de terrorisme pur, des frappes délibérées selon lui alors que se tient en ce moment même le sommet du G7 au Canada.
Midi passé de 37 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Impulsé par François Bayrou après un compromis noué avec les socialistes pour éviter une censure du gouvernement, le conclave sur les retraites destiné à rendre moins impopulaire la réforme portant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans est censé s'achever aujourd'hui. Censé car hier, le Premier ministre s'est dit prêt à accorder quelques jours de plus aux 5 participants encore présents, signe sans doute qu'on est encore assez loin d'un possible accord entre partenaires sociaux, même si cela ne faisait déjà pas grand mystère lorsque cette concertation a été lancée. Le MEDEF a entériné qu'il ne bougerait pas sur l'âge de départ, ce qui ne signifie pas forcément une fin de non-recevoir. Pour les syndicats, tout dépendra en réalité de ce que le patronat sera prêt à lâcher ou non en termes de carrière des femmes, de pénibilité ou bien encore d'augmentation de cotisation. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Les négociations, Wafia, ont-elles avancé ?
Alors sortir de cette réunion ce soir en ayant obtenu un accord entre partenaires sociaux après 3 mois et demi de discussion, on n'y est pas encore. En revanche, hors de question, disent les organisations de salariés, de poursuivre ce conclave au-delà, avec pour la CFDT, vous l'avez dit, deux priorités, faire entrer 3 critères de pénibilité pour permettre aux salariés les plus abîmés par le travail de quitter leur emploi avant 64 ans. L'autre point crucial, le sort réservé aux femmes. Le premier syndicat de France estime qu'il faut leur permettre de partir avec 2 meilleures pensions, puisque la réforme borne désavantage les carrières hachées. Les syndicats souhaitent donc calculer leurs pensions, non pas sur les 25 meilleures années de rémunération, mais par exemple sur 22 ou 23. La CPME semble favorable à un accord en ce sens, mais le MEDEF tarde à négocier. Le patronat a semblé plus souple ce matin sur la question des femmes, mais pas d'avancée pour l'instant sur la pénibilité. Enfin, Patrick Martin l'a dit sur tous les tons, pas question pour le patron du MEDEF de revenir sur le départ à 64 ans, ce que les 3 syndicats toujours autour de la table semblent avoir accepté. Les discussions se poursuivent, Thomas, toute la journée.
Merci Wafia Kenich, ainsi qu'à Olivia Branger pour les moyens techniques.
C'est un projet de loi qui porte décidément assez mal son nom.
Simplification, plus d'un an après son dépôt au Parlement et à l'issue de 3 mois d'examen perturbé par les soubresauts du calendrier, les députés seront appelés à voter enfin sur ce texte cet après-midi. Or, tout porte à croire qu'ils devraient échouer à le faire adopter. Pourquoi ? Parce que les macronistes à l'origine de cette proposition projettent de voter contre une version finale qu'ils jugent trop éloignée de leur projet initial. En l'occurrence, les Républicains et le Rassemblement National ont obtenu non seulement la suppression des zones à faible émission, mais aussi un net recul du dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols. Le tribunal administratif de Strasbourg était appelé à se prononcer ce matin sur la légalité du confinement définitif des déchets toxiques enfouis sur le site de Stockamine dans le Haut-Rhin. 42 000 tonnes au total, entassées à près de 600 mètres de profondeur. L'autorisation de les entreposer était initialement temporaire, sauf que l'État l'avait prolongé pour une durée illimitée. Véronique Robert-Rod, bonjour.
Bonjour.
La justice a finalement rejeté les requêtes donc des associations et élus alsaciens qui craignent que ces déchets ne polluent à terme la nappe phréatique qui alimente pourtant des millions de personnes.
Oui, pour la justice, le danger aujourd'hui, ce serait d'aller remuer tout ça. Dans son jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il était désormais impossible d'aller chercher les 42 000 tonnes de déchets toxiques entreposés en profondeur dans cette mine. Plus dangereux de les retirer que de les laisser. Un déstockage, c'est ce que souhaitaient les opposants à Stockamine. Depuis le début, ils alertent sur une possible pollution des nappes phréatiques, pollution au cyanure, à l'arsenic, au mercure et autres déchets extrêmement toxiques. Ce déstockage arrive trop tard, dit le tribunal, qui estime que l'état de la mine, ses galeries, ses toits qui s'affaissent, l'état général des infrastructures et bien sous terre sont désormais trop dégradés pour tenter d'extraire les déchets en toute sécurité. Depuis quelque temps, le gestionnaire de Stockamine, la société des mines de potasse d'Alsace, détenue à 100% par l'État, a aussi entamé un vaste chantier pour consolider tant bien que mal le site. Ça consiste à couler des barrières de béton autour des blocs contenant les déchets. Pas seulement, il s'agit aussi de remblayer les puits près du site de manière à assurer une étanchéité. Illusoire, disent les opposants, qui ne voient pas comment des barrières en béton pourraient éviter une contamination à terme de la nappe phréatique.
Merci Véronique Robert-Rod. 30 années durant entre 1966 et 1996, des essais nucléaires auront traumatisé la Polynésie avec l'explosion de près de 200 bombes et autant de retombées toxiques pour la population. Voilà qu'une commission d'enquête doit rendre aujourd'hui son rapport sur la politique d'expérimentation qui a donc permis à la France de disposer de la bombe atomique. Cécile de Carvaz-Doué, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Dans ce rapport que vous avez pu consulter, on trouve près de 45 recommandations, dont la plus importante concerne l'élargissement massif des mesures d'indemnisation, sachant qu'aujourd'hui, non seulement une infime partie des Polynésiens en font la demande, mais que lorsque c'est le cas, celles-ci sont même rejetées à 60%.
Oui, et c'est effectivement pour renverser ce déséquilibre que ce rapport préconise, par exemple, de changer la loi Morin de 2010 qui conditionne l'indemnisation à 3 critères. Avoir séjourné en Polynésie française entre 1966 et 1996, avoir une des 23 maladies dites radio-induites, c'est-à-dire causées par le nucléaire, et avoir été exposé à un seuil de radiation de 1 millisievert. La nouvelle loi ferait justement disparaître ce seuil qui n'a aucune valeur scientifique, dit le rapport, et ne garderait donc que les critères de temps, de lieu, de maladie, avec une liste révisée pour ces maladies, pour y inclure par exemple les cancers du pancréas, du pharynx, de la prostate et certaines maladies cardiovasculaires. Il est aussi question d'ouvrir le droit à l'indemnisation aux victimes par ricochet, dit le rapport, c'est-à-dire celles qui ont perdu un proche, et d'allonger les délais de prescription des demandes d'indemnisation de 6 à 10 ans. Surtout, ce rapport demande à l'État français d'investir en moyens humains, notamment, pour aller chercher les anciennes victimes, dont beaucoup n'ont pas les moyens de demander une indemnisation. L'autre volet de ce rapport, c'est la transparence avec la publication des décisions du comité d'indemnisation, l'ouverture des archives biologiques et sanitaires du commissariat à l'énergie atomique, puisque ça n'est pas le cas, et le financement de recherches épidémiologiques d'ampleur pour mieux connaître les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires. L'idée finalement de ces 45 recommandations, c'est bien de réconcilier les mémoires par plus de transparence, plus de science, avec tout de même une condition préalable, que la France demande officiellement pardon pour avoir fait exploser 193 bombes en Polynésie française.
Et pour continuer donc d'évoquer la publication de ce rapport, invité à présent de la rédaction en direct depuis l'Assemblée, le président de la dite commission, Didier Legac, député Ensemble pour la République de la 3e circonscription du Finistère. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Et toujours à mes côtés, donc, pour vous interroger. Cécile, on vient de l'entendre, dans ces 45 préconisations, il y a quand même un léger bémol, puisque ça risque de coûter énormément d'argent. Est-ce que cela a été chiffré, d'une part, et en a-t-on les moyens, d'autre part ?
Non, alors effectivement, oui, excusez-moi, Frédéric, il faut le chiffrer, bien évidemment, il faut commencer par cela. Moi, beaucoup des mesures que propose la rapporteure sont inspirées de l'indemnisation des victimes de l'amiante, un dossier que je connais bien. J'ai présidé le groupe d'études amiante à l'Assemblée nationale pendant quelques années. Et le FIVA, qui est le Fonds d'intervention des victimes de l'amiante, aujourd'hui, est un fonds qui est devenu excédentaire. En tous les cas, il dispose de réserves aujourd'hui encore importantes. Tout ça pour vous dire que l'amiante, eh bien, ça date la première législation de 1997 et que 40 ans après, malheureusement, le nombre de victimes a diminué. Donc je pense que pour les victimes des essais nucléaires, et malheureusement, eh bien, le nombre de personnes qui pourraient en bénéficier aujourd'hui n'est peut-être pas si élevé. En tout cas, encore une fois, il faut le chiffrer. À l'époque des essais, en Polynésie, il y avait à peu près 100 000 habitants. Donc, vous voyez, si vous faites le rapport avec l'amiante qui a touché des millions de personnes à travers le pays, je pense que c'est tout à fait envisageable pour les finances publiques.
Question de Cécile de Carvesdoué.
Et justement, vous demandez également, et c'est une demande récurrente des Polynésiens, que l'État français évalue le nombre de cancers pris en charge par la Caisse d'assurance maladie de la Polynésie, parce qu'il faut, prévenir les auditeurs que la compétence santé est une compétence autonome de ce territoire, donc que la France prenne en charge éventuellement et paye pour la prise en charge des cancers de tout le territoire. Ça, c'est faisable ?
Oui, c'est faisable. Effectivement, il y a ce contentieux depuis plusieurs années, comme vous l'avez rappelé. La Polynésie française bénéficie de très larges compétences, d'une autonomie assez forte dans de nombreux domaines, dont celui de la santé. Et c'est plutôt bien. Moi, je suis plutôt partisan des transferts de compétences et de rendre le maximum de décentralisation possible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que ça a compliqué effectivement les relations entre la Polynésie et l'État français, parce que de fait, comme la compétence a été transférée il y a très longtemps déjà, il y a plusieurs années, vers la Polynésie, eh bien, ça a empêché la Polynésie peut-être d'approfondir le sujet. Mais oui, il faut aussi, ça fait partie des propositions, il faut aussi régler et tourner la page de cette dette financière à l'égard des Polynésiens. Et là encore, il faut le chiffrer. Et moi, je j'ai un peu découvert le dossier depuis que je suis président et je suis assez surpris par le fait qu'il n'y ait pas d'études épidémiologiques, études factuelles sur effectivement le nombre de personnes atteint par une maladie radio-induite par les essais nucléaires.
C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, dans toutes ces 45 préconisations, on demande beaucoup d'investissement de la part de l'État français. Peut-être pour les auditeurs, préciser quand même qu'en 2023, rien que pour les compensations, ça a coûté 12 millions d'euros à la France pour indemniser 150 personnes sur 564 qui en avaient fait la demande. Quand on fait le différentiel avec, vous l'avez dit, environ 100 000 Polynésiens qui ont potentiellement été arrosés par ces essais nucléaires, est-ce que tout ça c'est faisable ? Parce que 12 millions d'euros, si on multiplie par le nombre de potentielles victimes, ça peut chiffrer vite.
Oui, non, mais bien sûr, mais bon, il faut le chiffrer, mais c'est faisable. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, il s'est passé plusieurs décennies depuis la fin des essais nucléaires, et je suis convaincu qu'il n'y a pas potentiellement des milliers de victimes qui demain viendraient se manifester. Encore une fois, 100 000 personnes qui vivaient en Polynésie, voilà, aujourd'hui, 40 ans après, elles sont combien à être victimes d'un de ces cancers radio-induits et malheureusement, elles sont combien encore en vie.
Et ça, c'est la science et la France. Les études épidémiologiques sans doute le diront. Peut-être une dernière question, monsieur. Oui. L'idée, quand on revient de Polynésie, comme c'est mon cas, en reportage, c'est quand même de pouvoir, avec ce rapport, réconcilier les mémoires, non seulement en Polynésie, mais aussi avec la France. Est-ce qu'il y a urgence ?
Absolument, vous avez raison, il faut réconcilier, moi je dirais il faut aussi apaiser, et si ce rapport peut effectivement apporter un certain apaisement par ses éclairages, ses préconisations, eh bien on n'aura pas failli à notre mission. Il y a une très très grande défiance des Polynésiens à l'égard de l'État français en raison justement du manque de transparence autour de ces essais nucléaires. Donc il est temps de tourner la page de ces essais nucléaires et je trouve que l'État se grandirait effectivement aujourd'hui à dire la vérité, toute la vérité et puis aussi à apporter tous les éléments qui sont demandés. Oui, il y a urgence parce que il y a une défiance, cette défiance est transformée en rancœur, et cette rancœur, il ne faudrait pas que demain, notamment chez les plus jeunes générations, se transforme en haine ou en colère.
C'est bien compris. Merci Didier Le Gac, député donc Ensemble pour la République de la 3e circonscription du Finistère, et également président donc de cette commission d'enquête, d'avoir répondu à notre invitation en direct depuis l'Assemblée. Merci également à vous, Cécile Le Carvaz-Douet, ainsi qu'à Michael Simon pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur l'ensemble du territoire, même si quelques nuages d'altitude voileront parfois le ciel près des côtes de la Manche, au nord de la Seine et sur la Provence. Quant aux températures, elles seront comprises entre 18 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.